Mieux surveiller pour mieux anticiper les risques terroristes, c'est tout l'objet du projet de loi sur le renseignement qui sera adopté demain en Conseil des ministres. Alors que la menace terroriste n'a jamais été aussi élevée dans notre pays, que les enquêtes post-attentats de ce début d'année pointent du doigt des défaillances dans la surveillance d'individus qui ont minutieusement préparé leurs actes, le gouvernement entend avant tout doter les services de renseignement d'un cadre juridique stable. En clair, pourvoir faire légalement ce qu'ils faisaient déjà parfois, peu ou prou, sous le manteau. Mais il prévoit aussi de renforcer leur boîte à outils. Au-delà des traditionnelles écoutes téléphoniques, les hommes de l'ombre pourront désormais poser des micros, des caméras, installer des logiciels pirates sur des ordinateurs personnels ou encore siphonner toutes les informations d'un portable dans un périmètre donné. La vraie nouveauté, c'est que toutes ces actions se feront sur simple autorisation administrative, sans plus passer par la case justice. Alors, Big Brother is watching you au nom de la lutte antiterroriste ? Pas du tout, se défend le gouvernement qui met en avant le contrôle strict des actions autorisées. Et vous ? Estimez-vous que ces nouvelles dispositions vont dans le sens de plus d'efficacité ou craignez-vous d'éventuelles atteintes aux libertés publiques ou privées? Vous inquiétez-vous pour le secret de vos correspondances ou de vos conversations? J'attends vos questions au 01 45 24 7000 et sur les réseaux sociaux franceinter.fr, Facebook et sur Twitter avec le hashtag Telson.
France Inter, Hélène Jouan, le téléphone sonne.
Bienvenue à toutes et à tous dans le téléphone sonne. Nos invités ce soir pour répondre à vos questions. Charles Prats, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes magistrat, ancien inspecteur à la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières. Face à vous, maître Xavier Nogueras, bonsoir.
Bonsoir.
Vous
bonsoir.
Êtes avocat pénaliste, ancien secrétaire de la Conférence des avocats au barreau de Paris. Également avec nous en studio, Nathalie Hernandez. Bonsoir Nathalie.
Bonsoir.
Spécialiste des questions de police et de justice à la rédaction de France Inter. Merci à tous d'être là pour répondre aux questions des auditrices et des auditeurs de France Inter.
France Inter, le téléphone sonne.
Cet iceberg représente la totalité du web. Que vous le croyez ou non, nous n'utilisons que 4% du net, ce qui est au sommet, la face visible. Je travaille dans la partie immergée, les 96% restants, dans le deep web. Où les criminels sont anonymes, les transferts d'argent sont intraçables et où tout ce qui est illégal s'achète et se vend.
Intervenez 01 45 24 7000 sur la page Facebook du Téléphone Sonne et sur Twitter avec le hashtag Telson.
Jacques nous appelle de Chalon-sur-Saône. Bonsoir Jacques.
Oui, bonsoir à tous.
On voilà. vous écoute.
Je vous remercie. Vous avez en fait bien formulé quand vous avez énoncé le thème ce soir, puisque finalement tout passe par l'information en matière de lutte contre le terrorisme ou contre les actions mafieuses, et déjà les services sont fort nantis de ce côté-là. Et après, effectivement, la masse d'informations parfois peut être difficilement traitable, et c'est comme ça qu'à certains moments, il y a effectivement des informations qui ne sont pas traitées en temps, hélas, en matière de lutte contre le terrorisme. Mais concernant l'information qui permet l'action, eh bien, ça n'a pas changé depuis l'époque de Louis XIV. Ça passe par les renseignements et par les indicateurs et par les enquêtes. Et après, les services compétents en matière de lutte contre les mafias ou contre le terrorisme, eh bien, peuvent mener une action beaucoup plus ciblée. Alors, je ne sais pas, je me pose un petit peu la question. Est-ce que ce n'est pas un petit effet de manche de notre gouvernement, quelque temps un peu avant les élections, en promettant des choses nouvelles? Mais je pense que ce qui est en place ne fonctionne déjà pas trop mal. Et je ne vois pas ce qu'on peut apporter de nouveau à tout ça. Voilà, je vous remercie.
Merci Jacques pour votre question. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau dans ce projet de loi sur le terrorisme, Charles Prats?
Écoutez, si on se réfère aux outils techniques, ce monsieur a parfaitement raison, votre auditeur. Très objectivement, tout ce qui va être dans le projet de loi n'est pas nouveau techniquement. C'est-à-dire que les micros, les balises de géolocalisation, les logiciels de pénétration informatique, etc., etc., ça existe déjà Je crois que je ne violerai aucun secret défense.
En disant qu'on les utilisait déjà.
En disant que les services spéciaux du pays les utilisent déjà.
Sauf que, qu'on le savait? Est-ce qu'ils avaient le droit de le faire?
Le savoir, oui, tout un chacun le sait. Il suffit d'ailleurs de regarder n'importe quel film à la télé pour voir que ça
existe.
Oui,
mais la télé, c'est peut-être pas la vraie réalité.
Oui, mais bon, ça s'en inspire un peu. En revanche, ce qui est nouveau, c'est le fait de donner un cadre légal aux opérations administratives.
Et alors ça, qu'est-ce que ça change, alors, le cadre légal?
Ça change beaucoup de choses. La première, c'est que ça donne une couverture juridique aux agents. Voilà. Le problème d'agents, tant de la DGSE qui ne travaillent pas en judiciaire que de la DGSI qui peuvent éventuellement travailler en judiciaire, mais pas forcément, ou des anciens RG qui pouvaient aussi travailler en judiciaire, mais pas forcément, ou de la DNRED pour les services spéciaux douaniers qui travaillent de facto non en judiciaire, c'est que s'ils étaient sur des opérations de ce type, ils n'avaient pas de couverture juridique légale. C'est-à-dire qu'en gros, les gars travaillent sans filet. Et aujourd'hui, dans une société qui se judiciarise de plus en plus,
et donc en gros, il pouvait y avoir des recours.
Voilà, et, où on recherche la responsabilité des agents. Cette loi a son premier intérêt, alors je ne dis pas son seul intérêt, on va en discuter après, mais son premier intérêt, c'est de donner une couverture juridique aux agents qui travaillent sur le terrain.
De les couvrir en quelque sorte, légalement et juridiquement.
Voilà, je ne vais pas citer Noël Roquevert dans Les Barbouzes qui expliquait que si vous vouliez être couvert, il fallait vous engager dans la gendarmerie. On a vu d'expérience que ce n'est même plus le cas. Mais en l'espèce, pour les agents des services, effectivement, leur problème, c'est qu'ils n'avaient pas de couverture juridique. Donc ça, c'est un véritable progrès. Après, sur les outils techniques, je vous l'ai dit, ça, c'est un autre débat. Ils existent et par contre, il va falloir voir la manière dont tout cela est articulé avec des procédures judiciaires, mais je pense que c'est le débat qu'on va avoir ce soir, parce que là, il y a de véritables questions de principe qui se posent.
Maître Xavier Nogueras, de votre point de vue, qu'est-ce qu'il y a de vraiment nouveau dans ce texte en préparation, qui va être donc adopté demain au Conseil des ministres ?
Ce qu'il y a de nouveau dans ce texte, vous parliez d'une boîte à outils, donc les outils, ils existaient déjà, c'est la manière de s'en servir, finalement. C'est aussi... Donc donner un cadre légal, c'est aussi prévenir le risque de voir des procédures s'effondrer sous l'impulsion des avocats qui scrutent de plus en plus minutieusement ces procédures. Parce qu'on ne plaide pas simplement sur la personnalité des personnes qui ont affaire à la justice, mais aussi sur ce qu'il y a à l'intérieur des procédures, des écoutes téléphoniques, de la géolocalisation, etc. Donc c'est la manière d'utiliser. Moi, ce que je regrette, c'est effectivement le problème fondamental de ce projet, c'est le recul de nos libertés individuelles. Je vous donne simplement...
Très précisément, un exemple.
La géolocalisation en temps réel, on en parlait tout à l'heure. On a fait un pas en avant, 10 pas en arrière avec ce projet. La géolocalisation en temps réel, c'est-à-dire que des officiers de police sont susceptibles de venir en pleine nuit, vous mettre une balise sous votre véhicule, comme ça on vous suit, en temps réel. Bon, et c'était c'est une mesure particulièrement coercitive, qui touche atteinte finalement à la liberté de la personne qui est suivie. Et c'était une mesure qui, avant une certaine jurisprudence, et là je parle sous le contrôle de Monsieur le Président qui est en face de moi, c'était une mesure qui pouvait être autorisée dans le cadre d'enquête préliminaire ou d'enquête de flagrance par le procureur de la République.
Bien. Donc cadre judiciaire, c'était
oui,
ça.
Oui, mais attention, parce que oui, cadre judiciaire, mais parce qu'après on va revenir à la problématique, nous avons contesté le fait que cette mesure puisse être autorisée par un magistrat qui ne répondait pas aux critères d'indépendance tels que définis par la Cour européenne des droits de l'homme. Et c'est ainsi que nous avons obtenu, par des arrêts de la Cour de cassation, à ce que cette mesure coercitive puisse être décidée non plus par un procureur de la République qui a une hiérarchie directe avec le garde des Sceaux, mais par un juge judiciaire indépendant, le juge des libertés de la détention. Donc si vous voulez, cette mesure ne pouvait plus être autorisée par un procureur, mais par un JLD. Aujourd'hui, on nous dit dans ce projet que cette mesure pourrait être autorisée de façon administrative par le Premier ministre.
Vous y voyez clairement une atteinte à la liberté.
C'est monsieur le juge qui est en face de moi qui est garant des libertés individuelles, voilà. Le juge judiciaire.
C'est un peu plus compliqué. C'est-à-dire qu'en fait, si... ce type de mesure. Alors après, on peut être d'accord sur le fond de savoir s'il fallait que ce soit basculé en autorisation par un juge du siège ou pas. Bon, le débat a été tranché par la Cour de cassation et par le Conseil constitutionnel, on n'y revient pas. Mais effectivement, si ce type d'informations, d'enquêtes, d'investigations, sont mises en procédure pénale pour être utilisées contre une personne, il est évident que cette personne doit avoir accès à toutes les garanties et notamment... que ce type de mesure puisse être contesté et ait été autorisé, puisque c'est une atteinte aux libertés, par un juge judiciaire qui est le garant des libertés individuelles, conformément à l'article 66 de la Constitution française. Bien. En revanche, si on est dans un travail de renseignement pur, fait par des services de renseignement, et que l'information en tant que telle n'est pas utilisée dans le cadre d'une procédure judiciaire pénale contre la personne, à ce moment-là, vous n'avez pas d'atteinte aux libertés au sens procédural du terme. Donc en fait, toute la question, et la vraie question, et c'est toujours la même depuis des années, c'est comment on articule la judiciarisation du renseignement en la matière. Voilà. Et ça, c'est la vraie question qui, en l'état, n'a pas de réponse, puisqu'on n'a pas le texte du projet de loi, on l'aura demain. On a simplement des éléments comme ça, un petit peu donnés par les uns et par les autres. Mais là, il va y avoir une vraie question, c'est comment la judiciarisation du renseignement est articulée, est-ce qu'elle est prévue ou pas ? Tant que le renseignement n'est pas judiciarisé, vous n'avez pas d'atteinte aux libertés au sens pénal, hein, en termes de procédure pénale pour les personnes. En revanche, dès que vous judiciarisez, là, vous êtes obligé de donner toutes les garanties qui sont prévues par la loi, la Constitution et par la Convention européenne des droits de l'homme.
Plusieurs auditeurs ont visiblement quelques inquiétudes sur cette question des libertés publiques et individuelles. Alors Marc, qui nous a écrit sur franceinter.fr, qui nous dit « On va pouvoir nous espionner comme on le voudra, quand et comme, et sans que nous n'ayons rien à dire. Et puis un jour, on se retrouvera embastillé sans savoir pourquoi. » Alors avant d'être embastillé, il y a peut-être quand même quelques procédures. On a également William qui nous appelle du Tarn. Bonsoir William.
Oui, bonsoir.
On vous écoute, bienvenue.
Oui, bonsoir, merci. Oui, moi c'était un petit peu un coup de gueule et puis qui va se terminer également par une question parce que bon, nous sommes dans une nation qui affichons au fronton de notre République égalité, fraternité et liberté, égalité, fraternité. Et puis j'ai l'impression, alors on fait un peu comme les Américains, sous couvert de choses dramatiques, comme les attentats, eh bien on nous supprime la liberté les unes après les autres. Et je rebondis sur votre auditeur qui vous a envoyé un email. Effectivement, demain on va nous embastiller puisque aujourd'hui c'est contre le terrorisme, mais demain, ça peut être pour un projet de loi où 60% de la population est contre, mais le gouvernement ayant décidé, bien que, comme pour l'Europe par exemple, nous la faire passer au forceps, et bien on décidera que les gens qui sont opposants et un peu plus virulents ou qui sont un peu plus structurés, bien ces gens-là, on les fliquera, on les écoutera et nous n'aurions plus rien à dire.
Donc, William, qu'est-ce qui vous choque ? Pardonnez-moi, je vais vous laisser évidemment poser votre question. Qu'est-ce qui vous choque tout particulièrement dans ce qu'on sait aujourd'hui de ce projet de loi ?
Eh bien, ce que maintenant, eh bien, on pourra, sans procédure judiciaire, eh bien, mettre quelqu'un sous écoute, lui pomper toutes ses informations sur son portable, sur son site internet. Ça se fait déjà. Je suis un ancien de la guerre électronique. Je suis un ancien militaire. Je suis resté 10 ans à l'armée, dans les forces spéciales. Ça se faisait, mais sous couvert, justement, eh bien, il y avait une procédure. Demain, c'est l'honnête citoyen qui sera, pour une raison ou pour une autre, en opposition contre un décret de loi ou contre un concept gouvernemental que l'on pourra pomper complètement sur son portable, sur son internet, et ça me choque énormément. J'ai l'impression d'être revenu au temps du livre de 1984 de George Orwell. Voilà, c'est.
Merci William. Alors votre question, parce que vous vouliez quand même terminer votre coup de gueule par une question. Je vous écoute.
Eh bien, par une question. Jusqu'où ça va aller, où jusque nos angélistes vont accepter qu'on nous supprime les libertés les unes après les autres. Donc ceux qui sont sur votre plateau, le juriste qui, je pense, était un petit peu également un peu surpris qu'on supprime des libertés, voilà, qui puisse me répondre jusqu'où ça va aller.
Charles Prats, et après Nathalie Hernandez, jusqu'où ça va aller ?
Écoutez, ça, jusqu'où ça va aller, il faut le poser la question à l'autorité politique. Vous avez...
Est-ce que c'est inquiétant ? Ce qu'on entend chez William, c'est l'inquiétude d'un pas supplémentaire vers de suppressions plus vastes de droits.
C'est toujours la même question, c'est est-ce que on accepte de perdre nos libertés pour avoir la sécurité, mais un peuple qui accepte de réduire ses libertés pour avoir la sécurité ne mérite ni l'une ni l'autre.
Sauf que William a fait le parallèle avec en gros le Patriot Act adopté par cette série de mesures antiterroristes adoptées par les Américains après les attentats. Est-ce qu'on en est là ? Est-ce qu'on peut faire ce parallèle là ce soir ?
Moi j'ai tendance à dire je suis un ancien d'un service de renseignement avant d'être magistrat dans ma carrière, j'ai tendance à dire que les textes de loi c'est bien, etc., mais ce qui compte c'est les outils techniques, voilà. Et que le dispositif français tel qu'il existe à l'heure actuelle, tel qu'il existait, à la fois avec l'utilisation d'outils techniques, mais avec une judiciarisation finalement et des garanties d'autorité judiciaire en matière de loi antiterroriste qui étaient données par cette procédure spéciale, par les qualifications particulières, l'association de malfaiteurs, etc. Malgré tout, avec les garanties données par la procédure judiciaire, était relativement équilibrée. Alors, la solution qui consiste à donner un cadre légal d'action aux agents des services de renseignement est importante parce qu'il faut couvrir nos fonctionnaires. Après, encore une fois, ce qui est important, c'est d'équilibrer les choses et de permettre aux gens qui peuvent être soupçonnés à tort. Rappelez-vous l'affaire du bagagiste de Roissy. Ce monsieur, si ce n'avait pas été Gilbert Thiel, qui était le juge d'instruction à l'époque antiterroriste, qui avait écouté ce que lui disait la personne en disant « c'est un complot contre moi » et n'avait pas enquêté dans ce sens-là, peut-être qu'aujourd'hui, il serait encore en prison. Bon, voilà. Donc, il faut garder ce cadre d'enquête judiciaire, ce cadre équilibré. Et ce n'est pas incompatible d'avoir des outils techniques innovants et très performants, d'avoir du croisement de fichiers, du traitement automatisé de données, des serveurs qui fonctionnent, de l'écoute téléphonique, du balisage, du microtage, etc. Voire même de laisser travailler les services de renseignement. À partir du moment où, à un moment donné, on bascule en judiciaire et donc on donne toutes les garanties effectivement aux personnes de ne pas se retrouver soumises à l'arbitraire. Et la question qui est en filigrane de votre auditeur, c'est le risque de police politique, on a bien compris. Et effectivement... d'avoir des outils de surveillance globale très pertinents, très performants, en dehors d'un contrôle judiciaire strict, ça peut poser de vrais problèmes selon comment le contexte politique peut évoluer dans notre pays, par exemple.
Alors, le gouvernement se défend quand même et essaie de dire notre projet de loi, il est équilibré. D'ailleurs, on crée une nouvelle autorité administrative indépendante. Est-ce que ça va suffire, Nathalie Hernandez, à donner cette espèce d'équilibre au projet de loi qui sera présenté demain?
Alors, ça va être effectivement une des questions, parce que au gouvernement, on se défend d'avoir voulu concocter un Patriot Act. On dit qu'en plus, ce projet de loi concerne uniquement le terrorisme et la criminalité organisée. Que cette commission nationale de contrôle des techniques de renseignement qui va voir le jour bientôt va être étoffée avec des magistrats, un ingénieur spécialiste des communications électroniques. Que cette commission pourra mettre le nez, si on peut dire, dans les affaires des services de renseignement au cours d'une enquête. Et si elle constate des irrégularités, elle pourra saisir le Conseil d'État qui, à son tour, pourra ou saisir... l'autorité judiciaire ou annuler la procédure et indemniser la personne concernée.
Et des voies de recours.
C'est vrai que la question qui peut se poser aujourd'hui, c'est que le travail des services de renseignement, ceux de la DGSI, est frappé du secret défense. Alors, est-ce que d'abord ils pourront verser toutes les pièces, tous les éléments qu'ils auront recueillis pendant leurs enquêtes au juge? Si on judiciarise le dossier, si la personne effectivement s'y recueille suffisamment d'éléments et que la personne sera à ce moment-là dans le radar des juges, est-ce qu'ils pourront ? Est-ce que le juge aura accès à tout ? Voilà, ce sont des questions qui là ne sont pas du tout abordées pour l'instant.
Xavier Nogueras.
Moi je pense que d'abord ça n'ira pas très loin. Et je pense que c'est
ça veut dire quoi, ça n'ira pas très loin
Il va y avoir évidemment des problèmes de conformité à la Constitution.
D'accord.
Mais moi, je pense que c'est une manière de faire du bruit pour cacher une autre réalité, qui est une réalité des moyens. Vous donner de meilleurs outils, c'est une chose. Mais on sait très bien qu'aujourd'hui, la DGSI, pour faire un travail... cohérent, et ils travaillent dans des conditions très particulières, ils font un métier très difficile, il faut multiplier par 20 leur effectif. Et je ne parle pas simplement des services de la DGSI, les parquetiers c'est pareil, les juges d'instruction sont en flux tendu, et donc aujourd'hui on veut réagir, le gouvernement veut réagir pour montrer qu'il se passe des choses, d'accord ? Ils veulent réagir pour montrer qu'il se passe des choses en France et qu'on est là et qu'ils sont présents. Donner de meilleurs outils c'est une chose, mais d'abord peut-être penser à réinjecter des moyens humains pour avoir des enquêtes mieux ficelées.
Mais il y a eu déjà des moyens humains qui ont été des recrutements qui ont été faits
recrutés à la DGSI.
Je vais vous dire une chose. Depuis les attentats, et ça c'est après en avoir discuté longuement avec des procureurs de la République, après les attentats, en fait les enquêteurs de la DGSI, vous en avez qui travaillent sur les enquêtes préliminaires, donc avec les procureurs de la République, et vous en avez d'autres qui travaillent dans le cadre des commissions rogatoires avec les juges d'instruction. Depuis les attentats, les enquêteurs chargés d'enquêter dans le cadre de commissions rogatoires avec les juges d'instruction ont été récupérés par
aspirés
pour pouvoir faire du travail de renseignement, etc. Si bien qu'aujourd'hui, ça c'est une réalité à laquelle on assiste, nous, avocats, vous faites une demande à un juge d'instruction, eh bien, vous n'avez plus de réponse. Les enquêtes n'avancent pas. Vous avez des personnes pendant ce temps qui sont en prison et qui attendent. Une personne qui est judiciarisée, alors on dévie un petit peu le problème, qui est judiciarisée un an et demi avec des mandats de dépôt de quatre mois qui se renouvellent. Si vous ne l'écoutez qu'une seule fois, deux fois ou trois fois, c'est-à-dire que vous ne la convoquez que trois fois, Est-ce que vous donnez les moyens aussi de régler sa problématique à elle? Donc c'est une manière, ce type de projet, de faire du bruit pour cacher d'autres réalités, des réalités financières, des réalités de moyens. On n'a pas aujourd'hui, la France n'a pas les moyens,
ne
malheureusement.
Ne veut pas en tout cas se donner les moyens.
Alors je ne sais pas si c'est un problème de volonté, mais en tout cas, voilà, c'est un problème fondamental qu'il va falloir regarder en face.
Nathalie, en même temps, Hernandez. La France était un des seuls pays à ne pas avoir
de cadre
organisé
juridique,
voilà. Un cadre pour ses services de renseignement. Alors est-ce que effectivement, il fallait en faire un à tout prix. Et est-ce qu'il fallait faire celui-là ou est-ce qu'il fallait en faire un autre?
Charles Prats, et puis oui, on continue avec les auditeurs.
Non, faire un cadre juridique pour les services de renseignement, oui, ne serait-ce que, je vous dis encore une fois, pour protéger nos agents et les protéger de poursuites pénales en France, le cas échéant. Puisque si vous n'avez pas de cadre juridique, vous pouvez être poursuivi pour atteinte à la vie privée, etc., etc. Donc c'est un peu embêtant. Et puis après, vous pouvez toujours exciper de l'ordre de l'administration, de votre chef de service, mais vous savez que tout fonctionnaire doit refuser un ordre illégal. Donc c'est vrai que ça pose un vrai problème. Ça, c'est une chose. Après, sur les risques constitutionnels de ce type de projet de loi, effectivement, et je rejoins Maître Nogueras, au regard de la jurisprudence du Conseil constitutionnel de 2014, notamment sur les problématiques de géolocalisation, au regard de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, le fait de ne pas mettre sous le contrôle de l'autorité judiciaire, du juge judiciaire, un certain nombre des mesures qui sont prévues dans le cadre administratif, va vraiment poser un souci très important. Et c'est assez étonnant que ce soit le Conseil d'État qui ait été choisi un petit peu comme juridiction de contrôle, parce que ce n'est pas le Conseil d'État qui est garant des libertés individuelles. L'article 66 donne cette fonction au juge judiciaire. Donc là, c'est un vrai, vrai, vrai souci. Alors,
peut-être que ça va être corrigé d'ici demain, puisque vous l'avez dit, on n'a pas encore le projet de loi.
Je vous donne un exemple d'action administrative qui est dans le cadre administratif et par des fonctionnaires qui agissent en administratif sur une autorisation judiciaire. Vous prenez les visites domiciliaires en matière fiscale ou en matière douanière, justement. Les articles L16B du livre des procédures fiscales ou L38 du livre des procédures fiscales ou 64 du code des douanes. Les agents arrivent en administratif, ils sollicitent une perquisition. Donc c'est un acte attentatoire aux libertés. Ils vont voir un juge judiciaire qui est délégué du président du tribunal de grande instance qui va les autoriser à mener une perquisition administrative. Mais c'est autorisé par le juge judiciaire. On pourrait tout à fait imaginer, dans un cadre comme ça, que les services de renseignement vont voir un juge judiciaire. Alors, ce n'est pas des juges spécialisés, qui sont habilités secret défense, tout ce qu'on veut, ça, après, on prévoit le cadre. Mais que ce soit un juge judiciaire qui délivre ces autorisations et non plus une autorité administrative. Et là, d'un seul coup, vous changez complètement la philosophie des choses. C'est-à-dire que vous rebasculez sur un contrôle de l'autorité judiciaire pour des actes, effectivement, d'enquête administrative, qui après seront en plus beaucoup plus faciles à judiciariser parce que vous aurez un dossier judiciaire à la base chez un JLD ou chez un juge d'instruction ou chez le président du tribunal ou que sais-je, mais avec l'intervention d'un juge du siège judiciaire. Ce ne serait pas, à mon avis, plus compliqué qu'une commission administrative supplémentaire et là, on rentrerait un peu mieux dans les principes juridiques français.
Une question d'Étienne qui nous appelle de Rhône-Alpes. Bonsoir Étienne.
Bonsoir, je vous remercie de prendre ma question. J'aurais voulu savoir en fait qu'est-ce que c'était que le terrorisme. Parce qu'on est d'accord que tuer des gens, mitrailler ou poser des bombes.
Oula, attendez, on vous entend plus bien, Étienne. Alors là, j'ai compris la première question. C'est quoi le terrorisme? Alors ça va être un peu large. Est-ce que vous pouvez préciser?
Alors, le fait de mitrailler des gens, de poser des bombes, c'est mal, c'est du terrorisme, on est d'accord. Maintenant, ma question, c'est où est-ce que ça commence? Je prends deux exemples. Bradley Manning et Edward Snowden, qui ont dénoncé le fonctionnement d'un État qui était totalement anormal, sont aujourd'hui traqués, sont accusés de traîtrise et de terrorisme. Qu'est-ce qui pourrait arriver demain avec ça? Vous m'entendez?
Oui, tout à fait. Oui. Tout à fait.
Et mon autre exemple, c'est on prend le barrage de Sivens, par exemple. Le fait de s'opposer à un projet qui détruit notre patrimoine, parce qu'il y a des millions qui sont en jeu, le fait de s'opposer à ça, est-ce que c'est du terrorisme? Alors on parle d'un barrage, demain ça peut être du gaz de schisme, le stockage de déchets radioactifs, etc.
D'accord, alors où commence, où s'arrête le terrorisme et la suspicion en tout cas de terrorisme? On va donner la parole à Maître Xavier Nogueras.
Je vais essayer d'être succinct, mais c'est une question qui est très intéressante parce que nous, les avocats, contestons intellectuellement depuis déjà pas mal d'années l'infraction qui est prévue dans le code pénal français. qui est pas une infraction de terrorisme, c'est une infraction qui, d'intention qui consiste très en amont du passage à l'acte, d'appréhender et de punir une personne sur sa seule intention potentielle de passer un jour à l'acte. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez plus deux catégories de détenus en prison, les coupables et les innocents. Vous avez aussi une troisième catégorie qui est les potentiellement coupables ou les potentiellement innocents, ce qui est une véritable problématique, vraiment, qui question à laquelle nous devons répondre. En France, le terrorisme, l'ensemble des personnes judiciarisées sont poursuivies pour la même infraction qui est l'association de malfaiteurs en vue de préparer des actes de terrorisme. Alors, on ne passe jamais à l'acte, sauf effectivement Mera, Kouachi, Koulibaly, eux ont tué des gens, ce sont donc, au-delà de l'acte de terrorisme, ce sont des assassinats, ce sont des meurtres, des homicides, etc. Mais l'association de malfaiteurs en vue de préparer des actes de terrorisme, c'est une infraction qui vous permet d'appréhender la personne à un stade où elle a encore la possibilité de dire non, je n'y vais pas. Ça pose une véritable problématique. Et quand on met ça en perspective avec le sujet qui attire notre attention ce soir sur déjà les moyens qu'on se donne en amont, mais que vous savez que quand vous serez judiciarisé, on aura également une problématique liée à la qualification pénale. Eh bien, on se retrouve avec effectivement un patriot acte à la française, avec des mesures qui finalement, pour nous, terrorisent les gens.
Sauf que, pardon de me faire peut-être l'avocat du diable, mais que plutôt que d'avoir des enquêtes qui se font après, les attentats, c'est vrai que quand ce qui s'est passé en France début janvier, voilà, le renseignement, c'est quand même le but, c'est quand même essayer de prévenir telles actions.
On est sur un vrai sujet, c'est-à-dire est-ce qu'on travaille en association de malfaiteurs en vue de commettre des actes de terrorisme ou pas ? Alors, bien évidemment, je suis sur une position totalement opposée à celle de Maître Nogueras, puisque moi, mon principe en tant que magistrat du siège, c'est de défendre les libertés individuelles. Et la première des libertés, c'est la liberté de vivre. Et je considère que il vaut mieux stopper le terroriste avant que la bombe n'ait explosé plutôt que d'aller le chercher après. Voilà. Peut-être que c'est très, 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 très méchant. Je suis un très méchant magistrat.
Non, ce qui est très compliqué, c'est effectivement où commence la suspicion et jusqu'où on va.
Je crois qu'il y a personne ou pratiquement personne qui est en procédure d'association de malfaiteurs sans qu'il y ait des actes constitutifs de l'infraction d'association de malfaiteurs qui soit relevé dans les procédures.
Alors on est à la radio, donc vous ne le voyez pas, mais Xavier Nogueras fait une grimace et il a l'air de douter, une moue dubitative.
Cela étant, pour répondre très précisément à la question de votre auditeur, on fait du droit pénal, et le droit pénal étant d'interprétation stricte, il y a un principe qui s'appelle nullum crimen, nulla pona sine lege. Je fais du latin parce que je suis latiniste et qu'il paraît qu'on veut supprimer l'enseignement du latin, donc j'en profite pour faire un petit peu de pub pour le latin. Voilà. Mais il y a un article, alors je renvoie ce monsieur à Légifrance s'il veut regarder, c'est l'article 421-1 du code pénal et c'est la définition du terrorisme. Alors je la lis rapidement. Constitue des actes de terrorisme lorsqu'elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, les infractions suivantes et suivent toute une liste d'infractions, les infractions d'atteinte à la vie, aux personnes, enlèvement, séquestration, donc détournement d'aéronefs, donc ça va être les meurtres, les assassinats, etc., les détournements, vol, extorsion, destruction, dégradation, les infractions de groupes de combat, les infractions en matière de trafic d'armes, par exemple, matière
nucléaire.
Alors
pardonnez-moi, est-ce que par exemple, parce que notre auditeur
parlait, le blanchiment, les infractions informatiques aussi.
Sivens.
Le barrage de Sivens, à partir du moment, il faut faire attention, effectivement, est-ce qu'on est dans une volonté de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur ? Voilà. Est-ce qu'on recherche sur Sivens l'intimidation ou la terreur ou pas ? Si vous êtes sur la recherche de l'intimidation et de la terreur, clairement, vous êtes dans le terrorisme. Si vous êtes sur une revendication politique qui ne recherche pas l'intimidation ou la terreur d'autrui...
Mais seulement la contestation, parce que la contestation, c'est pas de l'intimidation de la terreur.
Mais c'est vrai... parce que là, en ce moment, on parle beaucoup du djihadisme, du terrorisme islamiste, etc. Mais il ne faut pas oublier qu'en France, on a connu, notamment et en Europe, dans les années 70, un terrorisme d'extrême gauche, qui était un terrorisme politique. C'était clairement du terrorisme, mais on n'était pas sur le même type de revendication. On était aussi sur des revendications politiques. Donc il faut avoir quasiment une vision téléologique des choses, c'est-à-dire finaliste, pour voir quelle est la finalité des gens dans les actes qu'ils commettent.
Nathalie Hernandez.
Est-ce que la problématique, c'est vraiment la collecte de données ou est-ce que c'est pas plutôt l'analyse qu'on va en faire ? Parce que c'est Un des problèmes des services de renseignement, ce problème-là, il a été évoqué par plein de spécialistes hein, qui connaissent bien le monde du renseignement.
La question, c'est est-ce que c'est le fait de récupérer des données ou est-ce que c'est
qu'est-ce qu'on en fait
bien sûr, qu'est-ce qu'on fait de ces données? Je crois qu'aujourd'hui, ils veulent pouvoir justement se donner un cadre légal pour utiliser ces données sans difficulté. Mais je pense fondamentalement que ça ne permettra pas de mieux appréhender les problématiques de terrorisme. Ça ne permettra pas de mieux les arrêter, de mieux les appréhender. Je pense qu'il y a effectivement un travail en amont, mais vous avez surtout un autre travail qui doit être fait, qui est le travail, dans le cadre de la prévention, de l'écoute de la personne, de réinjecter encore une fois des moyens, mais de refonder
les politiques. Quand vous parlez d'écoute de la personne, on ne parle pas des écoutes, d'entendre ce qu'elle a à dire.
Vous savez, nous, on a les mains dans le cambouis, on va les voir au parloir des heures entières, on les comprend, on les écoute. Je parle là essentiellement de ces fameux djihadistes, même si c'est un terme générique, de les écouter, de comprendre leur problématique familiale, leur problématique scolaire. Vous savez, quand l'école a un peu foutu le camp, que la famille, personne ne la regarde depuis des années, eh bien derrière, il vous reste la police, la magistrature et la prison. Et donc, effectivement, vous pouvez vous donner les moyens techniques pour enquêter, mais si vous ne mettez pas aussi des moyens pour fonder à nouveau notre société, on sera continuellement... Parce que le djihadiste ou le terroriste s'adaptera. Comme tous les délinquants, les criminels se sont adaptés. Alors voilà, donc ce n'est pas une manière de régler le problème dans sa globalité.
Où est-ce que je suis?
Vous êtes à l'intérieur du source code.
C'est quoi le source code?
C'est un programme informatique, capitaine.
Le source code permet de se projeter dans l'identité d'un autre homme durant les 8 dernières minutes de sa vie.
Bon, réfléchissez, capitaine. Tâchez de vous souvenir. Qui a posé cette bombe?
Mais je sais pas, moi, qui a posé cette bombe.
France Inter, le téléphone sonne. Intervenez au 01 45 24 7000.
Chantal nous appelle de Dordogne et je crois relayer un certain nombre d'inquiétudes que nous expriment ce soir nos auditeurs. Bonsoir, Chantal.
Oui, bonsoir. Oui, moi aussi, ça peut être les mêmes répétitions que ce qui vient d'être dit, mais moi, ce qui m'inquiète, qu'on cherche les terroristes, voilà. Moi, ce qui m'ennuie, c'est que si demain, c'est Le Pen qui est au gouvernement, majorité n'est pas d'accord avec ce qu'elle fait, elle va nous piéger. Et on va se retrouver dans un régime pétiniste ou je ne sais quoi.
Avec ce projet de loi, vous pensez que ça lui donne des moyens supplémentaires? C'est ça que vous dites, Chantal?
Mais complètement, oui, complètement. Parce que bon, aujourd'hui, on est avec des socialistes, on va imaginer que ça va bien se passer. Mais imaginons que la roue tourne et qu'il se passe autre chose, mais on va où?
Oui, bien sûr. Maître Xavier Nogueras veut vous répondre, Chantal.
Juste sur la forme, vous vous rendez compte quand même qu'on est en train de parler de mesures pour lutter contre le terrorisme et que depuis tout à l'heure, le début de votre émission, nous n'entendons que des personnes terrorisées. Ce sont des mesures qui terrorisent les gens. Il faut, à mon avis, mais moi, je ne suis qu'avocat, donc moi, je suis de l'autre côté, j'aide les gens qui sont en prison, etc. Arrêtons d'essayer de montrer qu'on est là, parce que cette manière d'agir terrorise les gens. Et du coup, les gens, les personnes que vous avez au téléphone, elles tremblent. Elles disent « Mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer si Le Pen passe? Mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer si mon téléphone est sur écoute ?» Déjà, dites-vous que ça existe déjà. Arrêtez, trouvez d'autres moyens de parler à la population.
Charles Prats, oui, alors, est-ce qu'on peut quand même essayer de rassurer terrorisés? Vous avez raison, beaucoup d'inquiétudes ce soir.
Rassurez-vous, madame, le type de mesures dont on parle, techniquement, sont lourdes à mettre en œuvre et ça ne va pas concerner monsieur et madame tout le monde. D'ailleurs, ça me rappelle les histoires des pénétrations informatiques, à l'époque en 2006-2007. Alors, je suis bien placé pour en parler puisque c'est moi qui ai créé le logiciel de pénétration informatique à l'époque et je l'ai fait en judiciaire.
Pénétration informatique.
Voilà, c'est-à-dire c'est des mouchards sur les ordinateurs. Alors, on l'a fait sur un dossier de stup pour montrer que ça pouvait marcher. On l'a fait en Perben 2, procédure criminalité organisée. Ça avait été fait très discrètement, on n'en avait pas beaucoup parlé. Comme souvent en France, l'autorité politique a décidé d'en faire un grand projet de loi, faire beaucoup de barouf. Ça a inquiété énormément de gens. Ça a donné la loi de 2011 avec une écriture d'un titre complet dans le code de procédure pénale. Et pendant 2-3 ans, on avait régulièrement les gens dans la presse qui disaient « Oui, c'est Big Brother, on va venir nous fliquer, les juges vont nous poursuivre parce qu'on va faire du téléchargement à Internet et ça va permettre d'alimenter Adopi. » En gros, je vous la fais courte. Voilà. Sauf que quand on sait comment ça fonctionne, ce type d'outils, et quand on sait comment on doit les mettre en place,
c'est lourd ce que vous dites.
Quelle est la lourdeur des procédures, on rigole doucement parce que j'ai même cru comprendre que ça n'avait plus jamais été mis en œuvre en judiciaire depuis 2007. Voilà. Donc, il ne faut pas s'inquiéter là-dessus.
Sauf que là, on dit depuis le début de l'émission quand même qu'en gros, ça va être beaucoup plus facile d'écouter. Ça va pouvoir toucher tout le monde.
Le groupement interministériel de contrôle, logique, fait des écoutes administratives. Vous avez des quotas d'écoute. Aujourd'hui, en ce moment, vous avez des écoutes qui tournent en administratif par les services de renseignement, éventuellement aussi par la PJ en administratif, parce que ça peut se faire, par la douane, etc.
Qui sont quand même beaucoup moins nombreuses que les écoutes judiciaires, faut le dire.
C'est vrai. Et en plus, qui sont effectivement beaucoup moins nombreuses que ce que nous, magistrats, pouvons ordonner à la demande des enquêteurs. Mais ça existe déjà, les outils de pénétration, les outils de suivi. Est-ce que vous pensez que la DGSI ne patche pas les voitures, ne balise pas les voitures des gars qui suivent? Bien évidemment, tout ça, ça existe.
Je ne suis pas sûre que ce soit très rassurant pour Chantal. En gros, on lui dit, bon, tout existe déjà.
Mais bien sûr.
La seule différence, c'est que maintenant, on vous le dit.
C'est un peu ça. Et j'aurais un peu tendance à dire que ça ne sert à rien d'inquiéter les gens, effectivement, parce que, effectivement, on vous le dit, mais ça existe déjà. Donc, peut-être que la discrétion aurait été plus simple que l'effet d'annonce politique, l'effet d'affichage politique, parce qu'au final, ce projet de loi n'a effectivement, ce que je vous disais, qu'un seul intérêt, c'est de donner un cadre de couverture juridique aux agents pour des opérations qui sont d'ores et déjà menées. Voilà, c'est une réalité. Alors effectivement, avec une création d'une commission, une voie de recours devant le Conseil d'État, etc., on peut en penser ce qu'on veut. Il faudra voir techniquement si tout ça est conforme à nos normes constitutionnelles et européennes. Mais sur le fond de la réalité des choses, il n'y a rien de neuf.
En deux mots, Xavier Noguera, ça va compliquer votre tâche d'avocat ou ça va la faciliter d'une certaine façon?
En tout cas, ça va la rendre plus excitante.
Ah bah
parce que je vais vous dire une chose.
Voilà,
mais non, mais ça va la rendre plus
soir.
Excitante. Pourquoi? Parce que nous, notre métier, c'est d'être en colère, d'être fâché, tout constamment. On n'aime pas les ordonnances, on n'aime pas l'incarcération. Donc, si vous nous donnez de la matière pour contester, nous, on est très heureux. Alors, effectivement, la Chambre de l'instruction ne nous donnera pas forcément raison, mais on a la Cour de cassation derrière. Et on contestera et on continuera d'être fâché et de contester. Donc, effectivement, ça rend notre métier un peu moins, parfois un peu moins plat. Et donc, mais ça, bon. Là, on en parle sur aujourd'hui, maintenant, mais ça n'ira pas forcément. Vous le savez, Monsieur le Président, ça n'ira pas très loin.
Eh bien, on suivra ça. Merci beaucoup. Merci
Bonne
à tous les trois d'avoir participé à cette émission. Elle a été préparée par Ophélie Vivier, animée sur les réseaux sociaux par Sylvain Guilbeault. À la technique ce soir, Alexandre Chesnay et Tristan Gratalon. La réalisation a été assurée par Stéphanie Texier. Demain soir, nous parlerons du climat à la veille d'une grande journée spéciale sur France Inter, consacrée à la montée des eaux. Mais d'abord, on rejoint Kathleen Evin. Bonsoir Kathleen.
Bonsoir Hélène.
Au programme ce soir de l'Humeur Vagabonde.
Je reçois Mona Ozouf et nous parlerons donc de République, d'école, peut-être de révolution, qui sait.
On reste avec vous bien sûr, juste après les informations. Très belle soirée à tous sur France Inter.